bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nouvelle Voix. Je suis Xavier Malartre, le fondateur de Reconverso. Que ce soit Reconverso ou le podcast Nouvelle Voix, l'objectif est le même, c'est de vous aider à trouver une vie professionnelle qui correspond pleinement à vos attentes, notamment en termes de sens et d'équilibre. Sur le site reconverso.fr, vous allez retrouver différents contenus qui peuvent vous aider dans votre transition ou déjà dans vos envies de changement. Vous allez retrouver des articles, des guides, également des programmes en ligne et des accompagnements. Je vous mets le lien vers le site reconverso.fr dans les commentaires de l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute de ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est une interview. J'ai rencontré Virgile Cormier. Le parcours de Virgile, je pense qu'il peut parler à pas mal de personnes parce que c'est quelqu'un qui a fait une école de commerce, qui a commencé par une première expérience de commercial, après qui est allé dans une start-up, puis dans un grand groupe français. Donc il a eu ce parcours-là et puis en parallèle de tout ce parcours, il s'est toujours posé des questions sur le sens au travail, sur ce qui lui convenait, ce qui ne lui convenait pas. Les entreprises dans lesquelles il s'est senti épanoui, d'autres pas du tout, la culture d'entreprise ne lui convenait pas forcément, c'est ce qu'il nous explique très bien dans cette interview. Et ça l'a amené vraiment à se questionner, également à avoir des doutes, à se dire est-ce que je plaque tout, enfin vraiment avoir ce questionnement-là, et à prendre les choses en main, à faire un bilan de compétences, à faire des formations pour vraiment pouvoir bifurquer. Alors pas forcément bifurquer totalement, vous allez le voir, mais vraiment trouver quelque chose qui a du sens pour lui. C'est ce qu'il va nous expliquer pendant cette interview. J'ai divisé l'épisode en deux séquences. La première séquence, donc le premier épisode aujourd'hui, est vraiment centré sur son parcours. Et puis le deuxième épisode, que je sortirai du coup la semaine prochaine, sera consacré aux mémoires qu'il a réalisées pendant sa formation à l'Institut de Transition. Parce que je trouve que la mémoire est très intéressante par rapport au sujet du podcast Nouvelle Voix. Son mémoire était sur le désenchantement au travail et le lien que ça peut avoir et même l'opportunité que ça peut représenter, ce désenchantement, par rapport à la transition écologique. Alors le lien, on ne le fait pas forcément de manière évidente, mais c'est un lien qu'il a pu faire et donc le deuxième épisode sera consacré à ce mémoire et de manière générale à l'évolution de notre rapport au travail. Et il y a pas mal de choses que Virgile peut nous apporter grâce au travail qu'il a fait dans ce mémoire. Il a fait beaucoup de recherches, il a lu beaucoup d'ouvrages, il a rencontré plein de monde. Et c'est très intéressant de pouvoir échanger avec lui sur ce sujet-là. Donc premier épisode d'aujourd'hui, son parcours. Et deuxième épisode, la semaine prochaine, le mémoire sur le désenchantement au travail. C'est parti pour ce premier épisode. Bonjour Virgile.
Bonjour Xavier.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce podcast. Et d'ailleurs, tu es le premier invité à distance du podcast Nouvelle Voix.
Et merci à toi pour ton invitation et puis pour tester ce nouveau format.
Mais écoute, avec plaisir. Donc, on va parler de ta vie d'avant, de ta vie d'aujourd'hui, de ce qui s'est passé entre ces deux vies, de cette transition que tu as pu effectuer. Et puis, on parlera aussi, bien sûr, du mémoire que tu as pu effectuer avec l'Institut de Transition. On en parlera plutôt dans une deuxième partie de cet épisode. Mais avant de parler de tout ça et notamment de parler de ton parcours, j'aimerais te poser une première question pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite, comme j'aime bien le faire. C'est de savoir pour toi qui, justement, a eu une transition professionnelle, est-ce que tu crois au déclic ?
Alors oui, j'y crois, mais pas forcément au sens où on l'entend. J'y crois déjà parce que moi-même, j'ai expérimenté des temps que j'identifie comme des déclics. Après justement avoir creusé un petit peu le sujet, je me suis rendu compte que ce n'est pas que ces temps-là, c'est aussi beaucoup de choses qui nous préparent en fait à avoir un déclic. Mais effectivement, j'y crois parce que pour ma part, je me souviens très bien, il y a certains moments dans mon parcours où je me revois très bien me dire où j'en suis, qu'est-ce que je fais, et où le chemin que j'avais imaginé être tracé, je me retrouve en hors-piste ou je me retrouve à sortir des rails et ces moments de sortie de piste, je m'en souviens. Donc oui, je les ai expérimentés. Et j'y crois pour avoir...
Donc le déclic existe quelque part, mais c'est un peu construit, si j'ai bien compris ce que tu nous dis.
C'est ça. Pour moi, le déclic, il existe, mais c'est effectivement des choses qui se passent en nous et qui avancent petit à petit. Parfois, ce n'est pas toujours visible de l'extérieur. Même pour soi, il y a des choses qui ne sont pas forcément tout de suite comprises ou intériorisées, mais qu'en fait, on... qui se conclut ou qui aboutissent en fait plus tard Et il ne faut pas se dire que c'est parce qu'on se pose des questions ou qu'on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, même si pour l'instant, il n'y a pas de passage à l'action, que pour autant, il n'y a rien qui se passe. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai, entre guillemets, stagné pendant longtemps, ou ma situation n'a pas évolué pendant longtemps. Et à un moment donné, j'ai senti que c'était le moment pour plein de raisons.
Alors on va reparler de tout ça, on va arriver sans doute à ce déclic au cours de notre échange. Alors j'aimerais revenir justement déjà sur ton parcours et déjà qu'on puisse parler de ta vie d'avant. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait peut-être comme études déjà et après quelles étaient tes premières expériences?
Oui, bien sûr. Bah moi du coup initialement j'ai un parcours et un profil d'école de commerce. Donc j'ai fait l'école de commerce de Rennes et ensuite j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que commercial. C'est une spécialité. Alors c'est une voie et une spécialité que j'ai prise par non choix, c'est-à-dire par défaut, sans savoir quoi exactement faire de ma vie, et en étant conseillé par mon entourage familial, surtout mon père qui lui-même était commercial. Mmh. Qui m'a dit c'est une bonne voie, il y a du travail, il y a des bons salaires, et tu as la possibilité de faire ça par rapport à, parce que j'étais plutôt un bon élève, donc il m'a conseillé d'y aller et c'est ce que j'ai fait.
Mais tu croyais à ce moment-là ou pas trop?
J'avais pas d'avis. C'était essentiellement ça. C'est que je pense, je m'étais pas suffisamment posé de questions sur qu'est-ce que je voulais faire plus tard quand j'étais plus jeune. Mmh. Et donc en fait, tout naturellement, quand on a pas d'avis, on se laisse un petit peu embarquer par où le vent nous mène. Ce qui peut arriver souvent, j'ai l'impression. Et du coup le chemin faisant où j'arrivais à passer aux étapes supérieures, je me suis retrouvé en école de commerce et donc à faire la même spécialité que mon père en l'occurrence.
D'accord.
Et du coup à me retrouver en tant que commercial pendant plusieurs années, jusqu'à ce que justement je commence à me poser quelques questions sur ce que je voulais faire de ma vie.
D'accord. Peut-être juste quand même pour rester sur ce métier-là, tu dis la même spécialisation que ton père. C'était quoi cette spécialisation?
Alors, mon père, il était ingénieur d'affaires dans le domaine de l'informatique, donc chez IBM. Et donc, du coup, j'ai fait une spécialité en dernière année d'école de commerce sur ça s'appelait IT Business Manager. C'était lié à tout ce qui était l'IT au sens large. Ouais. Et donc, j'ai pendant plusieurs années, j'ai fait un métier de commercial qui avait pas de lien avec ça. Après, je me suis naturellement dirigé vers le domaine du logiciel.
D'accord.
Et c'était un petit peu ce que je recherchais dans un premier temps au niveau de mon parcours et de ma carrière.
Et est-ce que du coup, donc, tu commences à évoquer le fait que tu commences à te poser des questions, mais avant de te poser des questions, est-ce que c'est un métier qui te plaisait?
Alors, ça effectivement, c'est intéressant parce que c'est le métier de commercial, surtout les premières années. Donc en fait, les premières années, j'étais responsable commercial donc d'une zone, donc pas mal commercial sur le terrain, dans une société qui faisait de l'édition juridique. Alors ça, normalement, il y a 90% des gens qui écoutent qui ne vont pas savoir ce que c'est.
Je t'avoue que moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Je fais partie des 90%.
D'accord. Tout simplement, c'est des maisons d'édition qui publient de la documentation juridique à destination des professionnels du droit. D'accord. Et c'est pas mal de monde, hein. C'est pas que les avocats ou les notaires, même si c'est des gros clients. Il y a aussi tout un tas de personnes en entreprise qui doivent avoir les règles juridiques comme les juristes, les RH, les directeurs financiers. Et donc, moi, j'ai travaillé là-dedans du coup pendant 4 ans, donc chez cet employeur-là. Et dans un premier temps, ça se passait bien et j'étais assez satisfait de ma vie professionnelle. Pour plusieurs raisons que j'ai identifiées par la suite, mais typiquement parce que déjà j'avais un salaire qui était très correct pour un jeune diplômé. Donc quelque part, la promesse de l'école de commerce était un peu tenue. Et d'autre part, j'étais dans un environnement que j'ai trouvé assez bienveillant, une équipe commerciale finalement où il y avait beaucoup d'amitié entre les personnes, beaucoup d'entraide, un directeur commercial qui était très très un peu père de famille envers son équipe et donc tout ça, et puis qui était très valorisant aussi, donc j'avais des résultats commerciaux et c'était quelqu'un qui savait reconnaître le travail, les résultats, et comme j'en avais, du coup j'étais assez reconnu, donc tout ça a fait que finalement pendant toutes ces années je me suis pas plus posé de questions que ça. Quelque part le deal était rempli, quoi. J'avais fait des études supérieures et je me retrouvais dans une situation qui était confortable et du coup qui ne suscitait pas des questionnements particuliers.
Donc les conseils du père étaient bons finalement.
Les conseils du père étaient plutôt bons, ouais.
En tout cas pour un début de carrière.
Pour un début de carrière, tout à fait. Ouais. C'est après que les choses se sont un peu compliquées.
Alors comment ça s'est compliqué justement ? Tu dis que tu as commencé à te poser des questions. J'ai envie de savoir justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu t'es posé des questions ?
Alors, ça a été justement le premier changement d'employeur. Où un peu incité par des messages reçus par des chasseurs de tête sur LinkedIn qui me disaient que voilà, j'avais un profil qui pouvait être intéressant et qui me proposaient de me débaucher en fait pour aller ailleurs pour tout un tas de raisons, hein, pour continuer à s'accomplir professionnellement, à découvrir de nouvelles choses, à aussi faire des gaps de salaire comme on dit, c'est-à-dire monter en salaire, hein, tout simplement. C'est aussi des raisons qui sont mises en avant. Du coup je me suis laissé un petit peu au bout d'un moment séduire et du coup j'ai été recruté par un employeur qui du coup était dans le domaine du logiciel, qui était une start-up à peu près d'une centaine de personnes, avec une, si tu veux, un peu comme la start-up dans Paris 16 que tu peux imaginer, qui avait des locaux qui étaient plus ou moins le manoir d'Harry Potter, avec
Baby-foot, billard,
le château de Poudlard en Lego.
J'imagine bien, je vois bien le style d'ambiance et de lieu, ouais.
Voilà. Et donc du coup. Ça n'a pas bien marché.
Ouais. Mais t'avais quel regard par rapport à ça, justement, là? Je sais pas, le château de Poudlard en Lego, c'est en Lego, hein,
ouais,
c'est ça?
En Lego, exactement, ouais.
T'avais quel regard par rapport à ça? Tu trouvais ça amusant ou tu trouvais ça décalé? Enfin, je sais pas.
Je trouvais ça très original et ça m'a beaucoup séduit, surtout quand j'ai été passer les entretiens d'embauche dans un premier temps. Je trouvais un certain sens, parce qu'il y avait aussi tout un storytelling autour du sujet de la formation, du coup. Donc il y avait un storytelling autour du fait d'apprendre en permanence, d'avoir des entreprises apprenantes, etc.
Ah oui, d'accord. Ok, voilà. c'était pas juste un jeu de Lego posé au milieu de la pièce.
Non, il y avait vraiment tout un storytelling autour de l'école de Poudlard et puis du fait d'apprendre en permanence. Ça avait un sens pour le coup.
Ah ouais, d'accord.
Et je me suis retrouvé aussi dans ce sens-là. Je me suis approprié un petit peu le storytelling et puis le sens qui était donné en fait à ce que faisait cette start-up. Du coup, c'est au moment en fait de démarrer le travail concret où je me suis aperçu que ça collait pas avec moi, mes aspirations. Parce que du coup, c'était un changement radical au niveau de la compétition avec les autres commerciaux, où finalement, c'était beaucoup moins coopératif et bienveillant que ce que j'avais pu connaître avant. Et ça m'a beaucoup changé.
Okay.
Et c'est là où en fait, j'ai compris que pour moi, le fait d'avoir une équipe sur laquelle tu peux compter, d'avoir des personnes qui t'aident quand tu as besoin et de se sentir inclus et puis embarqué, on va dire, dans l'aventure, c'était important, plutôt que de sentir que on est un peu tout le temps à se tirer dans les pattes ou en compétition. Alors typiquement, tu vois, c'était une entreprise dans laquelle il y avait une culture de justement la digitalisation presque à l'extrême, c'est-à-dire on considérait que deux personnes qui parlaient ensemble presque au bureau l'un à côté de l'autre, c'était une réunion et que c'était du coup une perte de temps et d'efficacité. Donc, donc voilà, c'est voilà, moi ce côté humain était très très important pour moi et du coup je l'ai pas du tout retrouvé là parce que forcément il y avait aussi cet objet aussi de l'apprentissage par soi-même qui était aussi intégré dans le processus d'intégration des nouveaux où en fait tu passes ton temps à t'auto-former en e-learning mais tout seul presque et du coup par gain d'efficacité certainement aussi mais où moi j'avais quand même besoin de pouvoir poser mes questions en tout cas de sentir qu'il y avait la place de poser ces questions là parce que des fois on te dit tu peux poser tes questions si tu as besoin mais des fois tu sens pas que c'est trop dans la culture ou voilà quand tu es sur un plateau où il y a t'entends les mouches voler presque.
T'as quand même le baby-foot qui fait du bruit, non, dans ce genre d'endroit.
Il était au rez-de-chaussée, moi j'étais à l'étage.
Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, c'est étonnant. Je trouve ça étonnant hein, de l'extérieur. Moi, j'ai pas travaillé en start-up, mais je trouve étonnant de. J'imaginais pas qu'on pouvait entendre les mouches voler. Je voyais justement une ambiance avec du bruit, tu vois. Une ambiance bruyante, tout le monde parle, tout le monde bouge. A priori, c'était pas le cas dans cette entreprise en tout cas.
Ah non, parce qu'il y avait cette culture d'entreprise qui était un peu particulière d'essayer d'être le plus efficace possible, le plus efficient, et un peu à considérer que le small talk ou ce que je veux dire par le small talk, c'est les petites discussions que tu peux avoir un peu informelles ou juste le fait de demander quelque chose à ton collègue. En fait, si l'information existe déjà en ligne, c'est un peu une perte de temps parce que du coup, tu lui fais perdre du temps et voilà. Bon, c'est un peu.
Mais ça veut dire qu'on t'a dit ça quand même. On t'a carrément dit, il ne faut pas poser de questions. Enfin, je veux dire, comment tu as eu ce ressenti qu'il ne fallait pas perdre de temps dans des petites discussions comme ça?
Ah oui, parce qu'il y avait un process en fait, qui expliquait très bien que le process, c'est d'abord tu regardes et vraiment, si tu ne le trouves pas, tu demandes. Voilà, c'est un peu
d'accord,
comme ça que c'était donné. Quoi.
Donc, mais tu as le temps de faire un peu de billard, du coup, ou même ça, c'était un peu limite?
Et tu vois, c'est ça qui était un peu paradoxal, c'est que en fait, il y avait cette culture d'entreprise, et puis il y avait ça j'en ai pas parlé, mais il y avait cette attente aussi par rapport à des objectifs qui étaient très élevés, c'est-à-dire que en fait, au bout de 2 semaines d'intégration, on attend presque que tu sois opérationnel, c'est-à-dire en tout cas le processus de ce qu'ils appellent l'onboarding, où t'as tes modules un petit peu de formation, il est sur 2 semaines, alors t'es en non-stop toute la journée. Au bout de 2 semaines, voire même avant, on t'embarque déjà sur des rendez-vous clients, on te challenge un petit peu, est-ce que tu veux prendre le lead, tu vois, donc ça va assez vite, donc du coup tout va très vite, et moi j'ai pas le temps de m'acculturer ou de me poser ou de faire un petit peu connaissance avec les gens avec qui je travaille, ça avance très vite vers l'objectif qui est d'enclencher des rendez-vous clients, de vendre, ce que je comprends aussi, mais effectivement, qui est un petit peu déroutant parce que c'est très rapide et puis ça me crée un fort stress en fait quand on me met sous pression comme ça. Donc j'ai du mal à, tu vois, par rapport au sujet du baby-foot ou de toute la sociabilité qui est censée avoir à côté, en fait, quand tu es sous stress, tu as du mal à prendre part en fait à ça.
Ouais, d'accord. Ouais. Et le stress passait par quoi en fait, c'est vraiment les objectifs concrètement ou c'est aussi le management ou qu'est-ce qui crée finalement ce stress?
C'est les attentes en fait les attentes et puis j'avais un manager qui était, je pense, qui essayait de nous tirer vers le haut, enfin en tout cas qui essayait de nous challenger au maximum, mais avec des grosses attentes aussi. Donc effectivement un peu. Ces attentes-là qui pouvaient inhiber ou stopper, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris après que je fonctionnais. C'est quand on me stresse trop, j'ai un peu tendance à me bloquer. Alors qu'il y a des gens qui fonctionnent très bien sous stress, ça dépend des personnes après.
Oui. Alors qu'avant, dans ton entreprise précédente, avec un manager plutôt paternaliste, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Il n'y avait pas du tout ce côté-là. C'était plutôt de l'encouragement. Mais tu avais aussi des objectifs, non, sur ton premier poste?
Alors oui, sur mon premier poste, j'avais des objectifs. J'ai toujours eu la chance de réussir à les faire, ou à peu près. Donc, ils étaient atteignables. Et puis, j'avais une grande liberté dans ma manière de m'organiser. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, cette liberté-là, c'est quelque chose que je me suis rendu compte après. La latitude que j'avais sur mon poste, ça me plaisait énormément. C'est aussi un des points que j'ai pas expliqué, mais cette grande latitude, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et là, effectivement, en arrivant dans ce nouvel environnement où tout était déjà pensé en fait à l'avance sur le processus d'onboarding, à tel moment tu devras faire tel truc, où tu restes aussi pas mal en vase clos, où en fait tu as ton temps dans l'entreprise et puis tu sors juste pour aller voir les clients. Avant en fait j'étais commercial terrain, donc en fait j'étais beaucoup plus aussi à l'extérieur, à gérer vraiment mon emploi du temps comme je l'entendais. Il y avait ce changement aussi. Tu vois, par exemple, pour donner un exemple, je me rappelle que dans la startup dans laquelle je venais de commencer, mon premier rendez-vous, on a pris un Uber pour aller voir le client qui était en région parisienne, parce que du coup j'étais déjà en région parisienne. Dans le Uber, on travaillait sur son PC parce que du coup on avait beaucoup de choses à faire. On débriefait pas vraiment on préparait pas spécialement le rendez-vous, on n'en débriefait pas spécialement non plus parce qu'on essayait de faire le compte-rendu dans le Uber et tout ça. Moi personnellement, j'arrive pas à travailler sur un PC dans une voiture qui roule, ça me donne mal.
Une voiture qui roule, c'est pas évident.
Ouais. Donc ouais,
voilà, c'est vraiment l'efficacité, minute par minute, chaque seconde doit être productive quoi.
Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc, ça a été un petit peu rude. Et d'ailleurs, je ne suis pas resté très longtemps.
Et donc, c'est ce qui a provoqué ce questionnement. Alors, est-ce qu'après cette expérience-là, tu as retenté une expérience commerciale ou est-ce que là déjà, ça a été un stop pour toi?
Je me suis posé beaucoup de questions du coup après cette expérience un peu malheureuse. C'est une bonne question que t'as posée parce que je me suis posé des questions sur est-ce que j'étais fait pour ce métier de commercial compte, à pas savoir c'était quoi la normalité entre ce que j'avais connu avant où ça s'était très bien passé et cette deuxième expérience où ça s'était assez mal passé voire très mal passé. Même si humainement, j'ai pas gardé de rancœur envers les personnes, mais effectivement, j'ai eu une petite période de quelques mois avant de retrouver un poste suivant, où justement ce questionnement, j'ai voulu un petit peu le pousser où j'ai entamé un bilan de compétences. Alors, j'étais assez jeune, je vais avoir 27 ans quand j'ai fait ça.
Oui.
Mais où justement c'était un début de questionnement où je commençais à me poser des questions et c'est là où justement on est revenu sur ce sujet de est-ce que ce serait pas le moment que je me pose des questions sur ce que je veux faire de ma vie et c'était le premier moment où j'ai commencé à me poser des questions là-dessus.
Ouais, donc des questions assez fortes. Ouais, l'idée, toi, c'était juste de te dire, finalement, je sais pas si je suis fait pour ce métier de commercial. Et le bilan t'a amené à te poser des questions un peu plus profondes sur la vision que t'as de la suite de ta carrière, quelque part.
C'est ça, sur une relecture aussi de ce qui s'était passé. Est-ce que c'était moi qui n'étais pas adapté au métier, essayer d'identifier ce qui avait marché et ce qui avait moins bien marché aussi. Se faire ce travail un petit peu réflexif, se poser des questions sur ce que j'ai moi comme attente par rapport au travail, c'est quoi mes valeurs. Tout ce travail-là, en fait, franchement, ça a été un moment de découverte en fait qu'on pouvait se poser des questions là-dessus parce que du coup je m'étais jamais posé des questions là-dessus et ça a fait pas mal de bien très franchement de faire ce travail avec la consultante qui était très bien d'ailleurs. Ça aboutit finalement sur j'ai pas voulu ou c'était peut-être aussi pas dans ma personnalité de tout chambarder comme ça, d'autant que la conclusion du bilan c'était de dire finalement, c'était peut-être juste un accident de parcours, cette expérience malheureuse en tant que commercial, et que j'ai pas forcément de problème fondamental avec le fait de faire ce métier, mais peut-être sous certaines conditions ou qu'il faille que je fasse un peu plus attention à dans quel contexte je vais le faire.
Ouais. Voilà. Puis je trouve que les bilans aussi, des fois, tu as un résultat à l'issue, donc toi, ça t'apporte un questionnement. Puis je trouve qu'il y a aussi des graines que tu plantes qui ressortent des fois que quelques années après. Tu vois, la réflexion que tu as commencé à avoir sur tes valeurs, la vision que tu as des choses à plus long terme, je ne sais pas si ça a émergé tout de suite ou si ça a germé tout de suite, pour reprendre mon image des graines. Je trouve que des fois, dans un bilan, il y a ça. Il y a le résultat immédiat qu'on attend et puis il y a des choses aussi qui vont, voilà, qui vont ressortir, qui vont pousser un petit peu plus tard.
Ouais. Non, c'est très... Ouais, c'est ça. Ça... C'était la première étape, comme tu dis, ça a été vraiment le fait qu'il y a des graines qui ont été plantées, ça m'a mis dans une disposition favorable à me poser des questions, mais en fait, il y a des graines qui ont été plantées à ce moment-là, qui ont germé pas mal de temps après, et qui continuent, qui maintenant commencent à donner une petite plante, hein, mais effectivement, ouais. Ça a été planté à ce moment-là. Et effectivement, je comprends ce que tu veux dire qu'il y a peut-être des personnes qui font des bilans de compétences en voulant avoir un résultat immédiat, enfin un plan tout de suite concret. Ben moi, ça n'a pas forcément été le cas parce que j'ai pas bougé tout de suite après ce bilan de compétences. Ouais. J'ai juste essayé de continuer sur la voie que j'avais choisie au départ.
Ouais, d'accord.
Mais par contre, en fait, c'est revenu plus tard. En fait,
Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé justement après ce bilan finalement? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as choisi?
Alors, après ce bilan, du coup, je me suis dit c'est dommage de rester sur cet échec-là, puisque je le vivais comme un échec. Oui. Et donc, du coup, j'ai un ami de mon école de commerce, justement, qui m'a proposé de rejoindre lui. Il avait rejoint une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle, ou du Big Data, exactement.
Ouais. Big Data, d'accord.
C'était en 2019.
Ouais, vous aviez un peu d'avance. Enfin, Big Data, on en parlait déjà beaucoup. Mais l'intelligence artificielle, il me semble qu'on en parlait moins en 2019 que maintenant où on en parle.
C'était un peu émergent, en tout cas, le Big Data, enfin, commençait à être un sujet qui était pas mal plébiscité, notamment par les entreprises, qui souhaitaient mettre en place des projets un petit peu autour du Big Data. Donc du coup, franchement, c'était une super chance, ce qui m'a permis de rentrer dans cette entreprise là parce que elle avait c'était une entreprise un petit peu à la très technologique, du coup, autour du Big Data, un petit peu à la Google. Alors je sais pas si je peux citer je citerai pas le nom, mais voilà, c'est une des grandes entreprises de la tech française qui était ce qu'on appelle une licorne.
Une licorne, oui, d'accord.
Ouais, okay. Voilà. Et donc, les licornes, c'est ces entreprises qui ont une valorisation qui est estimée à plus de 1 milliard, il me semble. Donc, une valorisation estimée. Hein. Mais donc, du coup, il y en a assez peu en France. Et donc, elle en faisait partie. Donc, c'était quand même une chance de rejoindre un petit peu cette aventure-là. Ouais. Et donc je les ai rejoints, mais là, pour le coup, en tant que ce qu'on appelle business developer.
D'accord, ok. Donc c'est pas tout à fait le même métier du coup, ou c'est quand même du développement commercial, non?
Alors c'est du développement commercial, mais où je faisais pas l'entièreté de ce que j'avais fait, par exemple dans mon premier job, parce que ça se concentrait essentiellement sur le fait de développer, enfin d'aller contacter des clients froids, enfin c'est-à-dire qui n'ont prospects, pas connaissance quoi, encore, voilà, des prospects quoi. Et pas aller jusqu'à la signature du contrat, ce que je faisais.
Ah oui, d'accord. Pour le coup. Ah oui, ok, vraiment de la conquête. De clients.
C'est ça, exactement. Okay. Pure chasse.
D'accord. Chasse, comme on dit, voilà. Je connais bien parce que moi, j'ai travaillé en cabinet de recrutement, notamment beaucoup sur du recrutement de commerciaux. Donc, c'était peut-être mon cabinet qui t'avait contacté pour la start-up. Donc, j'espère pas parce que ça peut être une bonne expérience. C'était pas nous. Mais peut-être pour cette expérience-là, par contre, c'est possible. Ah non, là, tu m'as dit que c'est pas un cabinet, c'est un ami qui t'a contacté.
Ouais, exactement.
Cooptation, ouais.
Exactement.
C'est un petit peu différent. Ouais. Est-ce que ça a été c'était en tout cas une belle opportunité pour toi, et est-ce que ça s'est révélé effectivement une belle expérience?
Alors, ça s'est révélé déjà une bien meilleure expérience que ma première expérience en startup, parce que là c'était aussi une expérience en startup. Ça s'est révélé une bonne expérience, mais en même temps ça m'a fait comprendre des choses sur ce que je voulais aussi, c'est-à-dire que au début, j'étais rentré dans l'objectif de faire du business development pendant un an ou deux, et puis de passer commercial, donc de reprendre un petit peu le parcours que je m'étais fixé en fait en début de carrière.
Oui, d'accord.
Et en fait, c'est à ce moment-là où justement des questionnements, sociaux et écologiques, sont un peu revenus sur le devant de la scène.
D'accord. Donc, il y a eu un événement où il y a eu quelque chose ou pas qui fait qu'à ce moment-là, c'est arrivé dans ta réflexion?
Alors, il y a eu justement un élément justement de déclic, comme tu me demandes, de début, où notamment sur la prise de conscience écologique, si tu veux, il y avait un, ça c'était sympa, il y avait un club de réflexion autour des sujets écologiques qui s'était constitué dans l'entreprise.
Dans l'entreprise,
ouais,
d'accord.
Dans l'entreprise. Okay. Avec des gens qui étaient en questionnement, en réflexion autour de ces sujets-là. Et notamment, on organisait des visionnages de documentaires qu'on faisait sur le temps du midi, où on louait une salle et puis on regardait tous ensemble un documentaire écologique, comme tu peux imaginer.
Ah oui, d'accord. Okay. C'est excellent.
Que ça ne va pas très bien ou... voir que c'est carrément la cata.
Oui. Oui, c'est vrai que pour repartir après l'après-midi, il faut que tu aies un documentaire.
Ouais, voilà, c'est ça.
Sur le dérèglement climatique, c'est vrai que c'est pas très motivant.
C'est ça. C'était exactement ça, tu vois. Le moment, je l'ai encore, donc c'est pour ça que j'appelle ça un point de déclic.
Oui, d'accord.
Où on regarde ce documentaire entre midi et deux. Et puis, après, tu retournes dans cette culture de la start-up, de allez, il faut passer des appels, faut y aller, faut envoyer des mails
pour
en
faire
masse,
plus de chiffres que l'année dernière.
Faire plus de chiffres. Et puis tout ça parce que moi j'avais en plus un secteur qui était le secteur du marketing ou de donc en fait pour aider des entreprises à faire vendre plus de trucs inutiles qu'on te dit que si tu vends plus de ces trucs là ça flingue un petit peu tout l'ensemble quoi. Donc c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire que tu te mets à faire des choses que tu viens de comprendre que c'était problématique par rapport au problème climatique, là en l'occurrence, ça peut être sur d'autres choses aussi.
Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire par dissonance cognitive, et c'est aussi un désalignement quelque part par rapport à tes valeurs aussi quelque part, c'est-à-dire que tu commences à te sentir décalé entre ce que tu penses et entre ce que tu fais au travail en tout cas.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça en fait, c'est... tu perds le sens de ce que tu fais, ou en tout cas tu changes de référentiel de sens en fait. Avant ça faisait sens pour moi de faire plus, de faire de la croissance, d'essayer d'être plus efficace, de regarder aussi ces stats de nombre de mails envoyés, de nombre de calls faits, de nombre de voilà. Et là en fait tu te dis je le fais pour cette finalité avec laquelle je suis plus sûr d'être vraiment d'accord. Et en fait, c'est là où ça commence à créer justement ce décalage dont tu parlais, qui est en fait que tu peux gérer de différentes manières. Tu peux le mettre sous le tapis, tu peux. Mais ça te revient en fait à un moment donné où il y a forcément. Forcément un coup en fait à ça, à le mettre sous le tapis.
Sous le tapis. Ouais. T'as essayé de le mettre sous le tapis toi, ou ça t'a tout de suite tu t'es dit non, il va falloir que j'ai une réflexion de changement.
Ça n'a pas été aussi clair que ça dès le début. C'est comme justement j'avais quand même fait ce bilan de compétences avant. Je partais pas de zéro et je pense que ça a été une chance. Donc j'ai pas été dans le déni. Pendant trop longtemps. Par contre, ça a créé une anxiété, clairement, de me dire si je ne suis plus d'accord avec ce que je fais quoi. En fait, et ça, pour le coup, ça crée quand même pas mal d'anxiété, un peu de perte de repère aussi, voire de perte de confiance en soi, parce que du coup, tu te dis, en fait, j'étais sur un parcours jusqu'ici, et si je le remets en cause, jusqu'à où ça va remettre en cause, en fait, les choses.
D'accord. Oui, il y a un côté, quand tu dis anxiété, un côté un peu vertigineux, c'est ça, de se dire, attends, moi, j'ai fait des études de commerce, j'étais commercial, business developer, etc.
Ouais.
Et c'est comme si tout d'un coup, il fallait renverser la table quelque part, un peu, comme si tu avais en tout cas l'impression qu'il fallait renverser la table, non? C'est ça ou...
Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait.
C'est
ce sentiment de vertige, c'est ça. C'est de se dire, le vertige, parce qu'il y a le vide, en fait, tu sais pas où tu mets les pieds, quoi.
Ouais.
Enfin, tu te dis, il faudrait que je suis pas aligné, il faudrait que je change, mais je sais pas quoi faire. J'ai fait des études pour faire ce que je fais actuellement, donc est-ce qu'il faut que je reparte de zéro? Est-ce qu'il faut que je refasse de nouvelles études? Mais la vie fait que tu as des frais qui sont liés à tout un tas de choses. Donc, en fait, ça remet beaucoup de choses en cause. Et au début, quand tu as juste ce problème-là, mais que tu n'as aucune réponse, c'est assez vertigineux, justement. Ouais. Et ça peut être inquiétant.
Ah, j'imagine. Et comment tu as géré ce moment, du coup, justement, d'anxiété, un peu de vide, comme tu dis?
Je savais que une fois que j'avais ça en tête, ça allait pas être possible longtemps, en tout cas, de mettre la poussière sous le tapis, parce que je pense que je dois être quelqu'un d'assez sensible, et en fait, si je me sentais pas, enfin, pour moi, l'alignement, le sens, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, qui est très important pour moi.
Oui.
Et donc, je savais qu'il fallait que je trouve une solution pour m'accommoder, en fait, avec cette nouvelle réalité, parce que sinon, à un moment donné, ça allait pas aller, quoi. Je voyais bien que je commençais à être un peu anxieux, à parfois mal dormir la nuit. Donc, ça, c'est des signes qui sont plutôt pas très rassurants. Ouais. J'ai cherché, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, il y a ce vertige, il y a ce vide, je sais pas quoi faire derrière. Donc il faut que je me fasse une formation sur ces sujets-là, ou que je reprenne un petit peu tout depuis le début. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé une formation qui était proposée, alors en région parisienne, hein, mais par le campus de la transition, qui est une école qui proposait, en fait, un bootcamp d'à peu près un mois sur les sujets écologiques et sociaux. Je me suis dit, il faut que je sens bien qu'il y a un problème fondamental, il faut que je me renseigne plus là-dessus, et ensuite j'y verrai peut-être un petit peu plus clair. Mais en étant pris par le travail et en étant un petit peu dans ce tapis roulant, en fait, du travail, où, en fait, t'as du mal à te dégager du temps de cerveau disponible, avoir l'espace mental des fois de réfléchir à côté, je me suis dit, il faut que je prenne ce temps-là pour savoir de quel pied repartir.
Et du coup, le bootcamp dont tu parles, c'était à distance, ou c'est quelque chose où tu rejoins du monde physiquement? Comment ça se passe?
Alors le format, c'était initialement prévu pour être en présentiel. Donc ça devait se passer, tu étais un peu en immersion pendant un mois, quoi, grosso modo, sur le lieu du campus, qui est en région parisienne, et qui est un peu comme un écolieu, je ne sais pas si ça te parle. Où c'est un lieu académique, mais ils expérimentent aussi des choses, de faire un jardin en permaculture, ce genre de choses. Ça me parlait beaucoup. Je me suis dit, on fait ça en collectif, et on va créer du lien aussi avec d'autres personnes pour qui se posent a priori les mêmes questions. Donc, ça devrait être fertile, comme on dit.
Oui.
Finalement, cette formation, elle devait avoir lieu en avril-mai 2020. Donc, si tu te souviens bien de ces dates-là.
Je vois à peu près le problème en me souvenant de ces dates-là. Je vois un peu le. Surtout, c'est pour ça que d'ailleurs, je posais la question de la distance. Physiquement, c'était compliqué.
Physiquement, c'était compliqué à ce moment-là. Exactement. Donc, du coup, ça s'est fait en full à distance. C'est resté très enrichissant. J'ai fait des rencontres avec des personnes très intéressantes aussi. Alors j'ai fait ça aussi, il faut le dire, en étant encore salarié chez mon employeur, mais en ayant pris en ayant demandé une rupture conventionnelle quand même pour l'après.
Donc tu étais déjà en train quand même de partir.
Ouais, j'étais quand même déjà en train de partir, et du coup j'ai pu solder pas mal de mes jours à ce moment-là, les utiliser pour faire cette formation. Voilà.
D'accord. Ok. Ouais, parce que ça te prenait du coup. L'idée, c'était de le faire à plein temps, hein, ce bootcamp.
Voilà. L'idée, c'était vraiment de le faire à plein temps en immersion. Donc même si c'était à distance, Bon, ils ont dû revoir le planning, mais oui. ils ont fait ça sur des journées complètes.
D'accord. Ok. Ouais. Ah ouais, d'accord. Est-ce que ça t'a fait du bien juste parce que tout à l'heure tu disais ce côté un peu vertigineux là, de se dire attends merde, là je suis en train de te remettre en question. Est-ce que juste le fait de rencontrer d'autres personnes qui vivent un peu la même chose, c'est quelque chose qui t'a rassuré du coup, qui t'a fait du bien?
Alors oui et non. Oui et non dans un premier temps parce que justement il y avait cette rencontre avec des personnes qui se posaient aussi des questions. En fait, je pense que le souci fondamental qu'il y a eu sur cette formation, c'est que ça s'est fait à distance et que je pense que j'avais besoin de rencontrer, d'expérimenter des choses concrètes. Et c'était pas du tout la même expérience en le faisant full en visio. Même si c'était quand même enrichissant par plein de côtés. En fait, je pense que c'est ce qui a fait que après cette formation, j'avais pas plus de plans de quoi faire après, en fait, en réalité. Il y avait encore beaucoup trop de questionnements. Et moi, étant quelqu'un qui aime pas l'incertitude ou qui aime peut-être pas prendre suffisamment de risques, je me sentais pas de me lancer sur quelque chose que j'avais pas mûrement réfléchi et où je savais pas exactement où j'allais. Donc, je me suis dit, après cette formation, en fait, je me suis dit, bon, pour l'instant, en plus, il y avait le contexte du Covid qui était un petit peu anxiogène. Je me suis dit, pour l'instant, c'est peut-être pas le moment de faire cette transition. Mon plan, c'était de retourner dans le secteur que j'avais fait en début de carrière, où ça s'était bien passé, dans l'édition juridique. J'avais une proposition à ce moment-là d'un concurrent chez de l'entreprise, de la première entreprise où ça s'était bien passé, justement. Il me proposait un poste. Et donc, je me suis dit, bon, ça, je connais, ça, c'est quelque chose, je connais le métier, je connais le secteur, ça s'était bien passé par une expérience passée. Je vais faire ça, le temps de clarifier un petit peu pour moi vers où je vais, quoi, pour le coup.
Ouais, d'accord. Ok, donc le changement était enclenché, mais l'idée de revenir dans le secteur du juridique, c'était plutôt une étape intermédiaire en se disant, bon, je patiente un petit peu, il y a le Covid, il se passe pas mal de choses. En gros, c'était un peu ça l'idée, c'est d'amortir un petit peu le changement, quoi.
Ouais, c'est ça. C'était d'amortir ce côté, ce vertige, si tu veux, que tu peux avoir, de te dire il faut que je change, mais je sais pas où je vais. Et ça, c'est très, moi, je trouvais ça très anxiogène. Ouais. Je me suis dit, faisons-le en relative sécurité, sur un métier que je connais, sur un secteur que je connais aussi. Laissons-nous le temps de réfléchir à quoi faire après, quoi.
Ouais, d'accord. Ok. Donc tu as vraiment fait cette étape-là, du coup. Tu es repassé dans le secteur juridique à ce moment-là.
Ouais, exactement.
D'accord. Ok. Ouais. Et quel a été, du coup, le déclic suivant? Qu'est-ce qui fait qu'après, tu as pu rebasculer?
Alors, du coup, le déclic suivant, c'est. Donc, ça, je l'ai rejoint cette entreprise pour à peu près 2 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour le coup, ça s'est pas aussi bien passé que ce que j'avais imaginé. Et là, pour le coup, pour complètement d'autres raisons, c'était pas du tout pour des raisons liées à des exigences que tu peux avoir en startup sur un petit peu la pression de l'efficacité, de l'optimisation de ton effort, ce genre de choses. Là, c'était plus que je suis tombé dans un contexte un double contexte d'un management qui était assez toxique pour le coup, et dans un contexte plus global d'entreprise qui se transformait, mais qui se transformait selon des critères financiers, c'est-à-dire à essayer de maximiser, j'imagine, la rentabilité. Alors ça nous était pas dit clairement, mais en fait c'était un groupe un peu historique qui, à mon avis, voulait s'introduire en bourse, ou en tout cas les actionnaires voulaient vendre, je pense, les actionnaires un petit peu qui étaient à la base un actionnariat familial voulaient, à mon avis, vendre leur part, et donc du coup l'introduction en bourse, ça permet de faire ça. Sauf que pour faire ça, il y a tout un travail un petit peu de rationalisation financière, de présenter des bons chiffres, qui fait que, en fait, pour présenter ces bons chiffres-là, il y avait beaucoup de choses qui étaient à casser, en fait, en interne, et notamment certaines équipes, certaines personnes. Il y avait un peu des réorganisations incessantes. Il y avait des personnes qui étaient là depuis des années qui ne reconnaissaient plus l'entreprise et qui d'accueil. D'ailleurs, il y avait beaucoup, beaucoup de départs, beaucoup d'arrêts maladie. Voilà. C'était
toi, tu es arrivé dans ce contexte-là. C'est-à-dire même les anciens, quelque part, qui étaient là depuis longtemps, vivaient mal la situation.
Ouais.
Mais toi, tu es arrivé directement dans une période compliquée de l'entreprise, quoi.
Ouais, voilà, dans une période de turbulence qui était liée à ce contexte-là, mais qui, pour le coup, et c'est ça que je trouvais pas très compréhensible, était pas lié vraiment au résultat de l'entreprise, qui restait très très bon. C'est juste que par contre, pour le coup, en tant que commercial, effectivement, les exigences portées sur les objectifs étaient pas réalistes. C'est-à-dire, il y avait des augmentations de 30% d'objectifs par an, c'était juste pas tenable. Surtout que là, on n'était pas dans un contexte de start-up qui double chaque année. C'était un domaine qui était couvert et recouvert un petit peu de tous les côtés, donc il n'y avait pas une croissance à espérer de 30% par an.
Chiffres, ouais. Ouais, donc un peu, enfin, en tout cas, c'est une expérience décevante par rapport à ce contexte-là.
Moi, et par rapport à ce contexte-là, c'était une expérience décevante. Et puis, il y avait ce contexte un peu plus global. Et puis après, il y avait des choses aussi à mon niveau, justement, dans mon équipe, où là, qui était décevant aussi. Mais là, plus par rapport aux relations de travail que je trouvais pas spécialement bienveillantes ou un peu un contexte à couteau tiré, si on peut dire, si on peut l'expliquer comme ça, ou si tu veux.
De compétition, tu veux dire?
De compétition, mais pas très saine, un peu défense de son précaré pour les commerciaux qui étaient là depuis très longtemps, qui avaient un peu verrouillé le système, si tu veux, et qui faisaient en sorte que les nouveaux n'avaient pas vraiment leur chance. D'ailleurs, il y avait un turnover des nouveaux commerciaux. Moi, je suis resté 2 ans, mais j'ai vu défiler des commerciaux qui sont arrivés après moi, qui sont restés quelques mois parce que, en fait, ils voyaient bien que c'était juste pas possible.
Ouais, que c'était pas possible. Oui, d'accord.
Ouais, donc finalement, malgré le fait que j'étais là depuis 1 an et demi ou 2 ans, à la fin, j'étais parmi les plus anciens, à part ceux qui étaient là depuis très longtemps.
Et pendant cette période, tu te questionnais toujours ou pas? Parce que quelque part, il y a eu 2 étapes avant là dont tu as parlé, il y a eu le bilan de compétences.
Ouais.
Après, il y a eu ce bootcamp que tu as fait. Donc, il y a eu ces 2 étapes où tu étais quand même vraiment déjà dans un changement, en tout cas. Finalement, tu reprends cette expérience dans le premier domaine dans lequel tu as commencé ta carrière. Mais du coup, est-ce que tu te questionnais en même temps que tu travaillais en parallèle ou est-ce que tu avais mis un peu ces questionnements de côté? Comment ça se passait à ce moment-là?
J'avais toujours ces questionnements en moi. Et en fait, quelque part, cette dernière expérience déceptive, ça a été le déclic final, si tu veux, qui m'a dit « bon, bah…
ouais. »
Là, il va falloir. Là, faut y aller. Voilà. Mais donc, du coup, il y avait quand même cette question de quoi faire. Et en fait, c'est là où je me suis renseigné sur quelle formation faire et où j'ai entendu parler justement de l'Institut Transition que j'ai fait après. Et l'Institut Transition, en fait, je l'avais repéré. Presque 1 an avant de le faire, c'est juste qu'il y avait tout un travail de comment on organise les choses pour que je puisse finir dans cette entreprise tout en ayant la possibilité de faire cet institut de transition, donc cette formation, l'institut de transition, la formation s'appelle Nouvelle Voie.
Oui, comme le podcast.
Comme le podcast d'ailleurs.
Oui.
Et en étant disponible, parce que du coup il y a deux promotions qui peuvent, enfin qui deux promotions de Nouvelle Voie à chaque fois. Il y a,
alors je te coupe juste 2 secondes par rapport à ça, parce que Nouvelle Voie, du coup le programme, on en a parlé dans un précédent épisode, donc pour les auditeurs fidèles du podcast, ils connaissent, parce que j'avais interviewé Clémentine Mossé qui fait partie des fondatrices de l'Institut Transition.
Bah oui, je suis bête.
Mais peut-être que, parce qu'il y a quand même une bonne partie des personnes qui écoutent l'épisode là qui n'auront pas écouté les précédents, hein, donc est-ce que tu peux peut-être juste en 2-3 minutes nous expliquer justement ce qu'est l'Institut de Transition?
Ouais, ok. Donc l'Institut de Transition, c'est un organisme de formation qui propose des formations pour les personnes qui sont dans la transition écologique et sociale, ou en tout cas qui veulent se rediriger vers là. Alors, la formation la plus longue, c'est celle qu'on appelle Nouvelle Voie, comme le titre du podcast, qui est une formation sur 1 an. Très bon titre, pour le coup. Et donc qui est sur un an et que tu peux faire en soit en étant disponible, ce qu'on appelle en disponibilité, ou étant okay. en parallèle d'un travail que tu pourrais avoir ou d'une autre activité. Et là, tu es en activité.
Mais il faut être à Lyon, du coup. Excuse-moi, je te coupe, mais il faut être à Lyon, du coup, pour le faire. C'est ça, hein, ouais, d'accord.
Alors, oui. Et alors, justement, moi, je n'étais pas à Lyon.
ouais. Et oui, donc, c'est pour ça que je me questionnais là-dessus,
ouais. Ouais, alors moi j'étais pas à Lyon pour le coup, mais comme j'avais prévu d'être en disponibilité pour suivre cette formation, parce que j'avais besoin de temps justement pour faire cette formation, je me suis rendu disponible pour être présent sur Lyon et faire mon expérience, avec l'idée aussi de pas forcément rester sur le long terme en région parisienne et donc de découvrir la région lyonnaise.
D'accord, ok, voilà. D'accord. Donc, tu es venu à Lyon pendant toute l'année, c'est ça, l'Institut de Transition ?
Ouais, c'est ça. Je suis venu, je suis venu pendant un an sur Lyon, même un petit peu plus. Ouais, et du coup, j'ai suivi la formation, j'ai fait des rencontres. Voilà. C'est ouais. juste pour que dans l'immédiat, pour des contraintes personnelles, j'ai dû retourner en région parisienne. Mais par contre, ça m'a permis d'enclencher une nouvelle dynamique derrière. Et peut-être aussi une nouvelle dynamique de lieu de vie d'ici quelques années, quoi.
Ouais, d'accord. Ok, donc il y avait une double logique, quoi. Ça pouvait te permettre de changer de vie professionnellement et personnellement en même temps.
Exactement.
Et du coup, je t'ai coupé pour la question de la localisation Lyon, parce que je me posais la question justement si on pouvait faire l'institut de transition. En venant d'ailleurs, mais a priori, il faut être à Lyon, en tout cas, pour cet institut, en tout cas.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on y apprend finalement quand on y rentre ? Pourquoi on y vient ? Pourquoi on rentre dans l'Institut de Transition ?
Alors, qu'est-ce qu'on y apprend ? Il va y avoir des modules sur des sujets différents. Il n'y a pas que des cours. Il y a des cours quand même sur différents enjeux qui sont liés aux transitions écologiques et sociales. On peut apprendre des choses un peu techniques comme l'analyse de cycle de vie. On peut apprendre des choses aussi plus globales sur la philosophie de la transition, les luttes et des résistances qui sont liées à la transition. Ça peut être aussi questionner un petit peu les limites de nos modèles économiques, notamment quelque chose qui m'a beaucoup apporté, c'était ce qu'on appelle les limites sociales de la croissance. C'était très enrichissant, mais il y a aussi des cours sur son parcours, ce qu'on appelle des temps parcours,
d'accord,
qui justement là aide à un petit peu se poser les bonnes questions sur est-ce qu'il faut un petit peu des questions qu'on soulève là pendant le podcast, mais sentiment de légitimité ou d'illégitimité par rapport à un changement de voie. Enfin, voilà, en fait, tous ces questionnements, on peut les voir traités et puis on peut les partager avec d'autres personnes qui se posent ces questions-là aussi.
D'accord. Donc, t'apprends des choses concrètes, mais tu travailles aussi sur toi en même temps.
Voilà, tu travailles aussi sur toi et puis tu as du savoir et puis tu as des savoir-faire aussi. Donc, tu as des modules sur apprendre des choses très concrètes que tu peux utiliser dans le secteur de l'associatif ou dans des prochaines expériences, par exemple dans l'économie sociale et solidaire, comme ça peut être animer une réunion, ça peut être plein de choses. Je ne les ai plus tout en tête, mais c'est des compétences qu'on peut te demander. Ou alors, par exemple, faire un plaidoyer. Ça, c'est des choses qu'on peut te demander dans le secteur associatif. Savoir calculer un modèle économique, savoir gérer un petit peu ces aspects communication, marketing aussi. Alors ça, c'est des choses que j'avais déjà vues. Mais pour plein d'apprenants, c'est des choses qui peuvent être utiles pour on veut lancer une activité ou on veut rejoindre une structure ou des fois on a des rôles qui sont très transverses, donc c'est utile d'avoir ces compétences, ces boîtes à outils, quoi, entre guillemets.
Ah ouais, complètement. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, toi, cette année à l'Institut de Transition ?
Alors moi, vraiment, ce que ça m'a apporté, c'est d'avoir du temps justement pour me poser des questions, pour expérimenter des choses. Ça, c'était quelque chose que je trouvais très important aussi dans l'Institut Transition. C'est que en fait, j'allais être mis en condition dans des structures alors j'allais dire dans des structures qui font sens, mais enfin, voilà, en fait, ça peut être sur des sujets divers et variés, ça peut être dans une association, ça peut être dans une entreprise aussi, ça peut être dans une collectivité, mais en fait, dans des structures qui animent, entre guillemets, l'économie de la transition écologique et sociale. Et donc, du coup, c'est concret. C'est-à-dire que moi, ça m'a, c'était quelque chose qui était un frein pour moi de pas savoir dans quoi je m'embarquais. Et je voulais pas reprendre tout à zéro, renverser la table pour reconstruire quelque chose sans être sûr. Et ça, c'est pour le coup, ça m'a apporté ça. J'ai testé des choses à la fois professionnellement, où j'ai fait des petites missions dans des structures, parce que du coup, c'est une des particularités de Nouvelle Voie. Je fais des missions dans des structures. Et ça m'a permis de comprendre quel environnement j'appréciais, quelles thématiques pouvaient me convenir, quelles aussi compétences j'avais ou je voulais développer. Par exemple, typiquement, j'ai découvert que j'aimais bien faire tout ce qui était du travail de sensibilisation, animer des ateliers. Donc, du coup, je me suis formé, par exemple, à des ateliers comme la fresque du climat, d'automne. J'ai pas encore fait d'atelier d'automne, mais c'est un de mes objectifs pour l'année prochaine. Voilà. Et donc, ça, tu vois, c'est tout autant de choses que j'ai découvertes par l'expérimentation, par les rencontres. Et c'est ça que ça m'a apporté. Et puis, ça m'a apporté aussi grâce à mon sujet de mémoire, parce qu'il y a aussi un mémoire qu'on fait et qu'on rend à la fin de l'année sur un sujet qu'on décide, nous. Ça m'a apporté aussi une réflexion autour de mon rapport au travail, le métier de sens... comment trouver son équilibre de sens, mais aussi en trouvant son équilibre personnel, parce que moi il y a vraiment les deux côtés que je trouve intéressant et important. Et du coup j'ai en sortie de Nouvelle Voie, j'ai l'impression que j'arrive mieux à équilibrer mes différents aspects de sens, enfin ou ma vie professionnelle et ma vie personnelle, et à trouver mon équilibre. Je trouve mieux
plus d'équilibre. Alors sur le mémoire, on va y revenir parce que le sujet me paraît très intéressant, donc on va y revenir, mais j'aimerais bien peut-être qu'on termine sur ton parcours. Après Nouvelle Voie, du coup, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait? Alors, c'est peut-être d'ailleurs ce que tu fais aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous expliquer l'après Nouvelle Voie?
Alors l'après Nouvelle Voie, un des enseignements aussi que j'ai vu à Nouvelle Voie en faisant justement mes missions, c'est que les compétences que j'avais développées en tant que commercial, le fait de savoir développer une activité en fait au sens large, c'était des compétences qui étaient pas mal demandées dans le secteur associatif ou dans l'économie sociale et solidaire, dans les structures économiques de l'économie sociale et solidaire. Et donc du coup, ça m'a fait me questionner sur est-ce qu'il faut que je change du coup ces compétences-là, sachant que fondamentalement, j'avais rien qui me fâchait définitivement avec ce métier-là, ou en tout cas, je sentais que j'étais compétent pour le faire. Donc, comme il y avait une demande dans des structures qui me parlaient par rapport à ces compétences-là, je me suis dit, autant retrouver un métier de commercial, mais pour le coup, pour une finalité là qui me parle beaucoup plus. Et ça a marché. Enfin, il y a des offres. Pour être commercial dans des structures qui m'ont parlé ou qui font sens. Et donc là, j'ai repris depuis à peu près 2 mois un métier de commercial, mais dans une entreprise qui s'appelle Citeo. Et qui, du coup, est un des éco-organismes qui existent en France, qui gère en fait la fin de vie des emballages ménagers et des papiers, et en gros qui collecte entre guillemets la contribution des entreprises, parce que chaque entreprise doit contribuer en fonction des déchets qu'ils mettent, que leur activité va mettre sur le marché. Et donc elles font cette collecte, et ensuite elles organisent le système de la collecte et du tri des emballages ménagers en France. Donc c'est la poubelle jaune qu'on connaît pour le coup.
Je vois bien. Et donc ça fait 2 mois à peu près, que tu es sur ce nouveau poste.
Tout à fait. Suis très content pour l'instant de cette transition et d'avoir repris ce poste-là.
Top. Puis je trouve que c'est super intéressant là, ce que tu dis, parce que ce que je remarque souvent dans les personnes qui sont dans la période, alors la période de vertige dont tu parlais tout à l'heure, un peu d'anxiété où on se dit attends, je me sens plus aligné avec mon boulot, ou pour différentes raisons, en tout cas ça me plaît plus, se dire attends, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, parce que c'est souvent ça la question qui se pose. Et on pense pas forcément, je trouve, hein, qu'en fait on peut, si ça nous plaît toujours, en tout cas ce qui était ton cas, on peut garder son cœur de métier, son cœur de compétences, et l'exploiter dans d'autres types de structures qui ont une finalité un peu différente de celle pour laquelle on a travaillé avant, et qui peuvent plus correspondre à nos valeurs. Et donc, toi, c'est dans le domaine commercial, mais j'en profite pour dire que je vois aussi beaucoup d'offres, par exemple pour des postes en comptabilité, en ressources humaines, dans les métiers de la formation, notamment également. Enfin, il y a beaucoup, et de la communication aussi, d'ailleurs, je vois beaucoup de communication. Donc, il y a la possibilité de garder ses compétences et puis les exploiter dans d'autres environnements qui ont peut-être plus de sens, quoi.
Ah bah oui, complètement. Enfin, c'est pour le coup une des choses que j'ai découvertes. Donc pour ceux qui écouteraient le podcast, c'est des secteurs liés à la transition écologique et sociale ou aux jobs qui font du sens, où bah, j'ai vu qu'il y a déjà beaucoup d'offres et sur beaucoup des métiers que tu as cités. Voilà, moi c'est vrai que je suis ressorti de la formation à Nouvelle-Voie en me disant bah, faut, comme je ne suis pas fâché fondamentalement avec les compétences que j'ai développées, il n'y a pas de raison de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et on peut totalement s'épanouir sur des compétences qu'on a déjà développées par le passé dans des contextes qui ne nous ont pas forcément convenu, mais là dans des secteurs qui font beaucoup plus de sens pour nous. Et voilà, alors après là je le vois dans mon expérience, je vois qu'il y a effectivement le sens que je donne à mon action, mais je vois qu'il y a aussi d'autres éléments qui font que je me sens bien dans l'entreprise dans laquelle je suis. Que par exemple elle a une finalité, cette entreprise, de non lucrativité, donc il y a moins cette je trouve ce sentiment de pression que j'ai pu avoir dans d'autres entreprises. C'est une entreprise à mission, donc c'est pareil, il y a cette volonté de mettre la finalité de la mission avant. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont à regarder. Et puis, très concrètement, dans mon travail au quotidien, je me retrouve avec d'autres personnes aussi qui sont engagées, qui partagent aussi des valeurs dans lesquelles je me retrouve. Donc tout ça fait que je me sens bien dans mon poste parce que je suis bien en fait avec mon équipe, et ça c'est quelque chose qui est aussi hyper importante et qu'il faut regarder. Ça fait partie des aspects qui, d'après moi, enfin en tout cas pour moi, font que je me sens bien dans un poste, et je me sens bien avec les personnes avec lesquelles je suis, et je suis content d'aller les rencontrer quand je vais travailler, quoi.
Ouais. Et c'est aussi parce que ces personnes, quelque part, si je comprends bien ce que tu dis, elles partagent aussi l'attachement au sens, quoi. Disons que la finalité de l'entreprise, en tout cas dans laquelle tu es, ceux qui sont dedans, en tout cas ceux qui travaillent avec toi, sont aussi alignés sur cette finalité en se disant ça a du sens, justement.
Tout à fait.
C'est peut-être ça qui fait que du coup on s'entend mieux, plus facilement, parce qu'on partage des choses, on partage des valeurs.
Ah oui, ça joue. Bien sûr, c'est hyper important. Mais ça, c'est... Je sais pas si... Je pense que là, le fait que la finalité de ce pourquoi on fait... pourquoi on travaille chez Citeo, ça joue forcément sur les personnes qu'on rencontre, qui sont des personnes très engagées sur les sujets des déchets, du recyclage, et puis tous les autres sujets qui sont liés. Donc oui, on se retrouve sur ces valeurs-là, ça c'est sûr. J'ai eu des très bonnes relations avec des personnes au début, justement dans ma première entreprise dont j'ai parlé au début. C'était un des éléments qui a fait que ça a marché aussi, c'est que je m'entendais bien avec mon équipe. Et moi je me suis rendu compte que j'ai besoin d'un environnement qui est bienveillant, qui est collaboratif, plutôt que un petit peu trop compétitif et trop dans la confrontation ou la, pas dire la malveillance à l'inverse de la bienveillance, je sais pas quoi dire, mais un environnement qui est pas forcément très bienveillant, voilà.
Ouais, d'accord. Ouais, donc là, tu te retrouves en tout cas dans cette entreprise-là. Tu l'as trouvé comment, du coup, ce poste-là, concrètement? C'est grâce à l'Institut de Transition? C'était une annonce? Ça s'est passé comment?
Alors, non, pour le coup, c'était par une annonce que j'ai trouvée sur le site Jobs That Make Sense.
Ouais, ok, d'accord.
D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'offres. Enfin, j'ai été agréablement surpris par le nombre d'offres de métiers de sens. Voilà. Après, ce n'est pas le seul portail qui existe pour trouver des emplois de ce type. Mais c'était par mes recherches personnelles. Okay. Pour le coup,
Alors, je mettrai le lien. Je vais essayer d'y penser. Je me le note là, de mettre le lien dans les commentaires de l'épisode vers le site Job That Makes Sense. Je vais essayer d'y penser. En tout cas, j'ai un article sur le blog du site Reconverso, pour ceux qui nous écoutent. Le titre, c'est « Comment se reconvertir dans la transition écologique ?» Et je parle justement de ce site avec le lien, donc on peut le retrouver aussi dans le blog, mais je le mettrai dans les commentaires de l'épisode. Tu disais qu'il y a d'autres plateformes, tu peux en citer peut-être, si tu les as en tête, une ou deux autres plateformes où on peut trouver justement des posts comme ça à impact positif.
Oui, bien sûr. Y a, pour ceux qui sont en région lyonnaise, il y a Ambition Transition, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je revérifierai. Attends, je vais trouver. Voilà, le portail emploi, économie sociale et solidaire. Okay. Portail emploi, économie sociale et solidaire, mais je crois que c'est un portail qui est plus parisien. Enfin, on va trouver plus d'offres parisiennes, contrairement à Ambition Transition qui est plus lyonnais.
Qui est plus lyonnais et Jobs That Make Sense. Oula, mon accent anglais là me fait défaut. Jobs That Make Sense, qui est national pour le coup. Donc on peut trouver des offres sur toute la France.
Tout à fait.
Donc voilà, tout le monde peut trouver une offre intéressante proche de chez lui, dans les métiers qu'on appelle à impact positif, donc qui sont liés à la transition. C'est pas que la transition écologique, d'ailleurs, on va trouver pas mal de choses sur un site comme Jobs That Make Sense. Oh là, j'y arrive pas. Jobs That Make Sense, c'est compliqué leur titre quand même, leur nom. Quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est, en tout cas, ouais, le dire compliqué. Vite, faut s'entraîner ça, pour les locutions, c'est pas mal.
Je vais m'entraîner pour le prochain épisode pour bien le prononcer. Mais en tout cas, c'est des offres, voilà, pas forcément, je le disais, dans la transition écologique, il y en a pas mal dans ce domaine-là. Ça peut être dans la transition solidaire, transition sociale, voilà. Dans toutes les transitions positives, en tout cas.
Ouais, tout à fait.
C'est terminé pour cette première partie de l'interview de Virgile Cormier. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite qui sera consacrée aux mémoires, au travail qu'il a fait sur le désenchantement au travail, le lien que ça peut avoir, l'opportunité que ça peut représenter pour la transition écologique, un épisode qui est très intéressant. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup avec Reconverso et je pense qu'il va aussi vous intéresser. Si le podcast Nouvelle Voix vous plaît, pour m'aider à le faire connaître, à de nouvelles personnes que ça peut intéresser, le mieux, c'est de le noter, de le commenter sur des plateformes comme Apple Podcasts ou Spotify. Ça me donne un sérieux coup de main. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine.